Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à partir d'une partie du texte que nous entendrons dimanche prochain dans l'Évangile. Nous serons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 9. Nous tâcherons d'éclaircir la phrase un peu mystérieuse que nous entendrons « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour ». La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Mais écoutons maintenant le premier épisode de l'Évangile de dimanche prochain. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Notre épisode commence par une question. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Cette question manifeste trois choses dans le cœur de l'homme. La première chose, c'est qu'il y a une quête de sens de l'intelligence de l'homme. Il voit un effet, cet homme est né aveugle, et il cherche une cause. C'est le principe qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Cette question est donc, dans un premier temps, la manifestation de cette quête de sens de l'intelligence humaine. Dans un deuxième temps, la question manifeste une autre quête, une quête de justice. Il y a une intuition que, dans les actes et dans la vie de l'homme, est censé s'appliquer un principe de justice. Et c'est là que l'on comprend la question « qui est-ce qui a péché ?». On a l'idée que cette maladie, que cette déficience de la santé, est une rétribution face à un comportement injuste, face à un comportement pécheur. Il y a donc une quête de justice au fond de l'homme. On se souviendra que d'ailleurs chez les enfants, le sens de la justice est une chose qui se développe très tôt, même avant la question du bien et du mal. L'enfant regarde l'assiette de son frère et de sa sœur et il trouve que la part de gâteau qui est dans la leur est plus grande que dans la sienne et il trouve que ce n'est pas juste. Ça vient très très vite. Et puis cette question manifeste un troisième type de représentation. C'est une représentation close. Vous avez vu, la question est fermée. C'est qui a péché, lui ou ses parents? C'est soit ceci, soit cela. On n'envisage pas d'autres solutions. C'est soit la réponse A, soit la réponse B. Il ne semble pas qu'il puisse y avoir une autre solution, une autre approche. Or, Jésus va sortir de ce cadre. Il va répondre ceci, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Notons, c'est le premier élément, que Jésus passe du « à cause de quoi ?» Quelle est la cause qui a provoqué cet effet? À un, en vue de quoi? Qu'est-ce que cela va permettre de faire? Qu'est-ce que cela va être l'occasion de faire? Pour prendre un exemple analogique, c'est comme si, voyant une bûche qui brûle dans la cheminée, l'un interrogeait « qui est-ce qui y a mis le feu ?» et qu'un autre répondait « on utilisera les cendres obtenues pour fertiliser le jardin. » La question à cause de quoi peut permettre d'agir sur les causes, mais elle peut aussi enfermer dans un « c'est bien fait, c'est bien mérité » et finalement ne déboucher sur aucune action. Le « en vue de quoi » ouvre à une opportunité d'agir. Cet état de fait est l'occasion d'une transformation. La réponse de Jésus nous fait sortir d'une conception qui était encore très répandue à l'époque, celle de la rétribution immédiate. Cette idée que Dieu rétribue immédiatement notre façon d'agir par une bénédiction ou par une malédiction. C'est-à-dire que donc si tout se passe bien pour moi, c'est que Dieu me bénit. Si je rencontre des épreuves, des échecs, en fait, c'est que je suis sous le coup de la malédiction de Dieu. En répondant « Ni lui, ni ses parents n'ont péché pour qu'il soit né aveugle », Jésus fait sortir de cette conception de la rétribution immédiate. Jésus affirme aussi, du coup, la réalité d'une souffrance innocente. Cela signifie que je peux endurer une peine qui n'est pas le résultat de mon péché personnel, ou bien je peux endurer une peine qui est sans commune mesure avec ceux dont je suis directement responsable. J'ai pu commettre des actions mauvaises, mais ce qui m'arrive sur le crâne est sans commune mesure et beaucoup plus lourd que ce à quoi j'avais à répondre. Notons au passage que le Christ n'a pas aboli le lien entre péché et souffrance, mais il ne l'a pas rendu systématique. En quoi cela est-il important? Eh bien, la Révélation, en particulier le livre de la Sagesse, nous dira justement que Dieu n'a pas créé la mort, Dieu n'a pas fait la mort, Dieu ne prend pas plaisir à la mort de l'homme, mais que la mort est le fruit du péché, c'est par la jalousie du diable que la mort et la souffrance sont entrées dans le monde. Le péché originel a blessé le monde dans lequel nous nous trouvons, et nous en subissons les conséquences sans que ces conséquences subies soient le résultat direct de notre péché personnel. Mais la blessure initiale de notre monde est bien le fruit du péché. Pour en prendre un exemple trivial, le pyromane qui met le feu à la forêt fait perdre au bûcheron son lieu de travail. Le bûcheron n'y était pour rien, mais il subit les conséquences du péché du pyromane. Le bûcheron est innocent de l'incendie causé par le pyromane, mais il emporte la souffrance. Ayant établi ce point de la souffrance innocente, Jésus va inviter à l'action, va ouvrir la porte à une action. C'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. La situation va être l'opportunité d'une action, d'une transformation. Une transformation où l'on reconnaîtra l'œuvre de Dieu, où l'on reconnaîtra la main de Dieu, où l'on reconnaîtra la présence de Dieu. On a besoin à ce moment de faire mémoire de l'expression « les œuvres de Dieu », car en effet, elle a déjà été prononcée dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, au verset 29. Jésus disait, dans le cadre du discours du pain de vie, « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé ». C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, c'est que les hommes croient, que les hommes reconnaissent que Jésus est l'envoyé du Père, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur envoyé par le Père. Or, c'est bien là que va aboutir tout l'épisode de l'aveugle-né. Nous entendrons à la fin de l'Évangile Jésus interroger l'aveugle-né qui a été guéri, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Celui-ci de répondre, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » L'homme dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. L'aveugle-né guéri a reconnu Jésus comme le Fils de l'homme, comme l'envoyé du Père, comme le Sauveur, le Messie. On en vient alors à l'expression un peu mystérieuse dont nous avions parlé. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus invite donc explicitement à travailler, à le faire reconnaître comme le Fils de l'homme, comme l'envoyé du Père. et cela passe par une rencontre personnelle avec lui. Nous le voyons, il y a deux rencontres de cet aveugle né avec Jésus. Une première rencontre qui va lui permettre de retrouver la vue, et une deuxième rencontre à la fin du récit où il prononce son acte de foi. Quand Jésus nous dit qu'il faut travailler tant qu'il fait jour, et qu'il ajoute qu'il est la lumière du monde, ça veut dire qu'il faut travailler avec sa présence, en sa présence. Ça veut dire qu'il nous faut aussi apporter sa présence. Vous voyez, dans le temps de l'Église, on pourrait se dire, mais comment est-ce possible, depuis l'Ascension, d'apporter la présence de Jésus? Eh bien, Jésus nous a donné, nous a indiqué les moyens de le rendre présent au monde. Et tant que nous le faisons, nous donnons cette lumière qui donne la possibilité aux hommes de le reconnaître comme le Fils de l'homme, l'envoyé du Père. Détaillons ces moyens de rendre Jésus présent qu'ils sont à notre portée aujourd'hui. Il y en a trois d'ailleurs qui sont mis en scène dans le récit de l'aveugle né. Le premier se présente lors de la première rencontre avec les pharisiens. L'homme est appelé à faire mémoire de la guérison dont il a bénéficié. Cela correspond à l'action de grâce. Je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi. Je fais mémoire de ce que Dieu a fait pour moi. Le deuxième moyen est un approfondissement de la connaissance que nous avons de la personne de Jésus. Vous voyez qu'on demande à cet homme de se déterminer, et qui dis-tu qu'il est? Il va commencer par dire, c'est un prophète. Alors au départ, il disait, je ne sais pas qui c'est. Mais là, il a approfondi, il a cherché, il a réfléchi par rapport à ce qu'il a vécu. Eh bien, nous, il y a une façon toute simple d'approfondir notre connaissance de Jésus. C'est à la fois la lecture des évangiles, mais aussi la fréquentation du catéchisme de l'Église catholique. Il y a une mine de renseignements dans le catéchisme de l'Église catholique qui peut nourrir notre foi. Et nous ferions un bel exercice si chaque semaine nous lisions un numéro du catéchisme de l'Église catholique, peut-être en commençant justement dans la partie du Je crois en Dieu sur ce qui concerne Jésus. Un petit numéro par semaine, déjà, ça nous ferait progresser dans cette connaissance. Troisième élément qui rend Jésus présent et que vit l'aveugle né, c'est de devoir rendre compte auprès d'autres de ce que l'on connaît de Jésus. Et il est d'ailleurs un peu chahuté, mais le fait de devoir expliciter ce qui s'est passé, ce que cet homme a fait pour lui, va contribuer à éclairer sa connaissance de Jésus et la clarté qu'il a de qui est Jésus. Cela correspond pour nous à témoigner de notre foi avec d'autres chrétiens, mais témoigner aussi de notre foi auprès de notre oikos, auprès de gens qui ne croient pas forcément. Le fait d'en rendre compte nous fera grandir dans la foi. Il y a des lumières, il y a des choses qui vont se mettre en place. Comme cet homme qui disait au départ « je ne sais pas trop qui il est », puis qui dira « c'est un prophète », et qui lui dira « mais il est forcément de Dieu », et finalement il dira « je crois que tu es le Fils de l'homme ». Je citerai encore quelques autres éléments qui permettent de rendre Jésus présent. Vous le savez, c'est quand deux ou trois sont réunis en son nom pour prier, il est là au milieu de nous. C'est lorsque nous sommes présents à l'adoration devant Jésus hostie. C'est lorsque nous vivons les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Mais c'est aussi à travers la visite des malades, le soin des pauvres, où je deviens à la fois le Christ qui visite les malades, mais aussi en rencontrant les malades, je rencontre le Christ vivant. C'est à moi que vous l'avez fait, rappelez-vous de Matthieu 25. Et donc à chaque fois que nous vivons ces comportements, nous rendons Jésus présent. Nous rendons Jésus lumière du monde présent, et donc nous pouvons travailler à cette œuvre du Père, à faire reconnaître Jésus. Travailler quand il fait jour, ça signifie du coup prolonger ce jour par notre attention à rendre Jésus présent dans notre monde aujourd'hui, dans nos relations aujourd'hui. Ainsi, au terme de notre réflexion, puissions-nous ne pas rester paralysés face à la souffrance, face à la souffrance innocente en particulier, mais que nous sachions en faire une occasion de la présence de Jésus, une occasion de la transformation du monde au nom de Jésus rendu présent par notre témoignage. Je vous souhaite de bons échanges.